Allez, on se met au vert, à la fraîche, les mains dans la terre avec notre jardinier en chef, Alain Baraton. Rebonjour.
Bonjour pour la fraîche, ce sera pas très difficile vu les températures.
Mais non, ça remonte, vous avez entendu Jean-Pierre Rameau.
Vous y croyez vraiment?
J'y crois très très fort, très très fort. Alain Baraton, vous répondez aux questions de nos auditeurs. On va commencer avec cette question de Michel, vous nous avez promis d'en parler. On va en parler, les papillons bruns, comment faire pour empêcher les papillons bruns de pondre sur les géraniums, vous demande Michel.
Oui, je voudrais prendre fait et cause pour les papillons. La grande mode aujourd'hui est de lutter contre ce que l'on appelle les mineuses. Et le papillon brun est une mineuse, j'y reviens dans un instant. Et on vous parle du Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui tue les chenilles de l'intérieur, qui les dévore de l'intérieur. Déjà, c'est pas très gentil. On va vous dire que c'est propre écologiquement, peut-être. Sauf que ce produit va tuer tous les papillons. Et moi, j'aime les papillons. Alors, arrêtons de toujours vouloir détruire la nature. Le papillon brun a effectivement l'inconvénient de venir pondre dans les géraniums. Mmh. Que fait-il? Il pond. Les petites chenilles vont dans la tige, creusent des galeries, empêchent la sève de circuler et le pélargonium meurt. Qu'existe-t-il comme technique? Des techniques pour tenir à distance ce papillon. Il n'y en a pas beaucoup. On vous parle de pulvérisation de purin de tanaisie. La tanaisie, c'est une plante que l'on trouve facilement dans la campagne. On la met à macérer, on pulvérise, pourquoi pas. Alors moi, j'ai une autre technique beaucoup plus simple qui ne sauvera pas vos pélargoniums ou géraniums, mais qui sauvera les suivants. Et si vous mettiez des variétés odorantes, eh bien oui. Vous savez, ces pélargos qui ont des feuilles extrêmement agréables à sentir quand on froisse le feuillage. Eh bien, sachez que le papillon brun n'y va pas. Il n'aime pas. Eh bien, ce qui sent bon, c'est quand même curieux, mais c'est comme ça. D'accord. Ça les tient à distance, donc c'est pratique. Mettez donc plutôt des variétés odorantes. Mais rappelez-vous que tout ce qui est Bacillus thuringiensis ne tue pas que les papillons dits nuisibles, il tue aussi les jolis papillons. Et ça, il faut arrêter.
Un message d'une autre Michel E. Elle nous écrit « J'essaie depuis plusieurs années de faire fleurir un solanum sur ma terrasse, mais que je mets à l'abri dans une véranda en hiver. Cette plante fait du feuillage, mais peu de fleurs. Faut-il la tailler plus régulièrement, lui donner de l'engrais, Alain ?»
La solanum, c'est une plante souvent connue comme grimpante. Celle-ci n'est pas grimpante, c'est le solanum ratonetti. C'est une plante qui s'appelle solanum parce qu'elle est de la même famille que les tomates et les pommes de terre. Et ce sont des plantes de la famille des solanum. Solanum. Alors vous la connaissez peut-être, c'est un végétal sous l'apparence d'un petit buisson qui a surtout l'avantage de fleurir, de produire des petites fleurs bleues avec le cœur jaune. C'est assez joli, c'est délicat, idéal pour les balcons, mais très 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 gourmand. C'est une plante qui a besoin de manger, mais de beaucoup manger, donc de l'engrais. Et oui, en pot, le solanum réclame de l'engrais, sinon il ne fleurira pas, pire, il dépérira, donc il faut mettre de l'engrais. Et mettre de l'engrais n'est pas un gros mot, il existe aujourd'hui des engrais tout à fait naturel.
Bon, tout à fait. Bien. François, lui, il a un camélia de plus de 30 ans qui fleurit abondamment. Il a composté les fleurs de ce camélia. Est-ce sans risque?
On va régler le problème une bonne fois pour toutes du compost. Il y a du fantasme autour du compost. Ouais. Incroyable. Le compost, c'est un dépôt où l'on peut mettre tous les végétaux ou les parties végétaux du jardin, sans aucune exception, sauf vraiment quand le végétal est contaminé d'un champignon terrible. Mais les fleurs de camélia peuvent parfaitement aller sur votre tas de compost, tout comme vos épluchures de pommes de terre ou de carottes, vos radis qui n'ont pas été consommés, qui sont jetés, etc., etc. Sachez que ce tas de compost, souvent, on voit qu'il fume. Il y a une chaleur qui se dégage à l'intérieur et qui va donc, en quelque sorte, détruire par la chaleur toutes les bactéries ou insectes qui seraient tentés de s'y développer. Alors, il y a des insectes, bien sûr, eux, il faut les laisser, ils favorisent la décomposition. Mais oui, on peut mettre les feuilles, le bois s'il est coupé en petits lambeaux, les fruits, tous les déchets végétaux ont leur place sur le tas de compost.
C'est noté. Patrice, il nous dit « J'ai un pommier qui n'est plus de première jeunesse, mais pas avare de bons fruits. J'ai remarqué récemment la formation de mousse sur certaines de ses branches. Dois-je m'en inquiéter ?» Vous alliez dire quelque chose sur le vieux pommier bons fruits?
Non, mais je trouve ça très joli. Je trouve ça merveilleux. Pas avare de bons fruits. Je trouve ça merveilleux. Alors, je vais essayer d'être clair. Ce n'est pas parce qu'il y a de la mousse que le pommier est un peu vieillissant. C'est parce qu'il est vieillissant qu'il y a de la mousse. La mousse n'a aucun effet négatif sur la croissance du végétal, d'accord, ni même sur la production de fruits. Supprimer cette mousse ne servirait donc à rien. On risquerait même d'endommager l'écorce. Alors si on retire la mousse pour des raisons esthétiques, on le fait avec une brosse, mais on y va doucement. Par contre, il est vrai que quand on est pommier, qu'on est jeune et dynamique, on n'a pas de mousse. Parce que la mousse ne peut pas trouver, d'accroche sur un végétal en pleine forme. La présence de la mousse atteste donc que le pommier est vieillissant. Et oui, il approche de la fin, doucement mais sûrement. et on n'y peut rien.
Alors Jean-Louis, il veut se lancer dans des grands travaux. Nous voulons mettre nos agrumes en pleine terre, mais en creusant à l'endroit idéal, nous tombons sur des racines d'un pin. Que faire ? Est-ce qu'il faut couper les racines ?
Ce qui m'inquiète, c'est qu'en levant la tête, il y a peut-être également un pin.
oui, a priori.
Donc on ne met pas d'agrumes à l'ombre, bien évidemment. Ensuite, planter les agrumes dans une terre de bruyère, car s'il y a un pin, la terre est certainement de bruyère. Je suis pas sûr que ce soit fortement conseillé. Et couper les racines pour faire mourir le pin, ça allait encore moins. Donc non.
Que des mauvaises idées.
Oui. Allez, on laisse la plante soit en pot, soit on trouve un endroit éloigné des pins pour planter ces agrumes.
Un message de Pascal Girard. Un olivier en vasque languit à l'ombre d'if depuis des 2 années. J'ai obtenu l'autorisation du conseil syndical de le replanter en pleine terre avec une exposition plein soleil. J'ai lu des conseils contradictoires sur la période de transplantation. Est-ce bien de mars à juin ?
Hypothèse, Amélie, que pendant des années, vous avez pris soin de vous protéger des rayons du soleil. Quand il y a du soleil, vous restez chez vous, vous ne sortez pas, vous attendez la nuit pour le faire. Et puis, pour une idée qui n'appartient qu'à vous, vous décidez un jour, en plein Kenya, d'aller vous exposer sous le soleil.
Je pense
que le mal de crâne va venir très rapidement, que votre peau va se teinter de rouge, que l'insolation va même vous guetter. Et je ne vous parle pas des coups de soleil. Quand un végétal a toute sa vie poussé à l'ombre des autres végétaux, mais il sera comme vous l'êtes, protégé du soleil. Il ne sera pas habitué aux rayons du soleil. Et la meilleure façon pour détruire cet olivier est de faire exactement ce que l'on vient de dire. Faut que tout soit progressif. L'olivier est une plante de plein soleil qui aime le soleil, mais il faut y aller doucement. On ne transplante pas un végétal brutalement pour le mettre de l'ombre au soleil. On le fera donc à l'automne et seulement à l'automne, et on évitera les situations trop exposées.
On a quelques secondes pour un conseil lecture pour terminer.
J'aime beaucoup un petit guide illustré de botanique de Corinne Descartes Carpenterie. C'est une femme qui n'était pas destinée à l'horticulture, elle est devenue une passionnée. C'est un petit bouquin qui vous apprend tout sur la botanique, les fleurs, les fruits, les feuilles, etc. C'est drôlement bien fait, les dessins sont d'elle, les photos sont d'elle, les textes sont d'elle, elle a tout fait. C'est publié chez Ulmer et ça coûte moins de 15 euros. Ça s'appelle le bonheur.
C'est un bon plan. Merci Alain Baraton, je vous dis à demain pour d'autres conseils.